Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 24 octobre 2023 et c'est l'épisode 339, l'ère de l'information. C'est probablement comme ça qu'on appellera à l'avenir dans les livres d'histoire l'époque dans laquelle on vit. Alors à moi, bien sûr, qu'on la désigne comme celle de l'écocide ou même qu'on l'appelle pas du tout, peut-être parce qu'on aura disparu. Petite parenthèse, je sortais d'une vidéo d'Aurélien Barreau qui m'a beaucoup déprimé. Bref, donc infobésité pour certains, apprentissage et culture plus accessible que jamais, mais aussi et surtout désinformation. Les grands événements dans le monde sont toujours une nouvelle raison de nous pencher sur la manière dont la tech aborde le rapport à l'information. Alors on va vous parler de ça et évidemment des autres sujets phares de la tech dans ce nouvel épisode de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Ça se ressentait pas forcément d'ailleurs avec mon intro, mais quand même, croyez-le, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Mais ça va super bien, il faut que je sois enthousiaste pour deux là, qu'est-ce que c'est, quoi c'est,
oui,
c'est pas
voilà,
mon boulot,
tu vas faire le boulot pour deux, oui. Juste avant qu'on enregistre l'épisode, effectivement, je témoignais de regarder une vidéo d'Aurélien Barreau qui est toujours un petit peu critique hein, sur la tech, l'intelligence artificielle. Et il a cette formule assez forte de lire ChatGPT, c'est comme faire l'amour à une poupée gonflable. Et voilà, je pense que ça résume bien peut-être sa vision des choses. Et puis, libre à chacun d'interpréter. Bref, allez, je passe plutôt à celles et ceux qui ont fait une action qui mérite qu'on mette en lumière. Frank Birk, Delphin Peter, je ne sais pas comment le prononcer, Guillaume Borde, un nom qu'on a fréquemment entendu ici, et Bruno Gentilet. Merci beaucoup à vous quatre qui avez choisi de soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé, parce que grâce à Patreon, vous pouvez soutenir Tech Café, un contenu, je l'espère, de qualité, sourcé en tout cas, dans un format divertissant, agréable à consommer, idéal pour vos moments avec du temps de cerveau disponible, comme peut-être le ménage, le sport ou les transports. Toutes les infos, c'est sur patreon.com/techcafé. Profitez évidemment en échange des épisodes sans la pub. Je voudrais relayer aussi un avis actualisé sur Apple Podcast. Et décidément, j'ai l'impression qu'il se sert d'Apple Podcast pour réagir aux épisodes Captain Flamme, puisqu'on le cite du coup fréquemment. Mais écoute, tant mieux. Il nous dit merci pour l'épisode spécial sur les LLM, les Large Language Model. Merci les Guillaume pour le dernier épisode qui rend les LLM accessibles à tous. Je pense qu'il devrait surtout te dire merci à toi, Guillaume, parce que je ne fais que mettre en exergue le contenu que tu as préparé. Quelle pédagogie pour démystifier tout ça? Une question en lien avec PrivateGPT et l'analyse des PDF. Peut-on élargir, je t'avais pas préparé Guillaume, je te prends à chaud, peut-on élargir le contenu en entrée et lui donner des pages web, exemple intranet, à ingérer? Merci beaucoup pour vos podcasts. On l'avait pas déjà dit ben, ça
si,
Guillaume
si, on a déjà répondu à cette question.
Putain, quand je vois cette question, je me dis qu'on l'a explicitement dit. Eh ben c'est pas grave Guillaume, je vais aller chercher un autre avis. Je pense qu'il a dû actualiser d'une manière ou d'une autre son avis. Attends, bouge pas, je vais aller en live, hein. C'est des coulisses, vous êtes direct, tac, 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 tac. En fait, j'ai l'impression qu'on en a eu plein d'avis. Qu'est-ce qui se passe avec mon outil?
C'est pas grave.
Il va être très long, celui-ci. C'est Flo Bosso, alors. Je sais que lui aussi, on a souvent cité. Merci pour ce podcast généraliste très riche qui me permet chaque semaine de faire un tour de l'actu tech. Personnellement, je l'écoute plutôt pour les infos tech en lien avec la géopolitique, moins pour la partie jeux vidéo, à part quand elle fait un lien avec les nouvelles technologies. À l'époque, je trouvais très intéressant quand vous décriviez la partie technique derrière les crypto-monnaies, minage, algo, philosophie derrière la crypto ou un coin en particulier. Et aujourd'hui, vous continuez ce type d'éclairage sur les LLM et c'est très appréciable, d'apparence pas très sexy, sympa. Vos analyses autour des nouvelles lois qui vont régir les boîtes techno sont intéressantes, bon ben je suis rassuré. Et merci de faire le lien régulièrement entre l'écologie de manière générale et la technologie avec la sobriété et le fait que vous mettez en avant certaines aberrations ou services qui sont peu ou pas du tout utiles. Limitons nos achats à nos besoins, enfin non, c'est bon. Apple est certifié par Mère Nature en personne, donc c'est bon, on peut acheter plein d'iPhone. D'ailleurs, les crédits carbone sont une illusion car souvent, ce sont concrètement des forêts qui sont replantées, ce qui est bien en soi, mais le CO2 que l'arbre va absorber est sur toute sa vie, donc trop tard face à l'urgence. Avez longue vie à Tech Café. Bon, merci beaucoup Flo Bosso. Vous avez compris que j'ai ressorti ce commentaire à l'arrache en dernière minute. Merci de manière générale à vous d'aller déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou mettre des étoiles sur Spotify. Mais Guillaume, peut-être je vais me rattraper avec le sérieux de la préparation d'un épisode comme il se doit pour relayer des réactions des auditeurs, à commencer par un commentaire sur Patreon de Pascal B, qui a réagi au dossier sur Stable Diffusion. Alors, si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode qui est en fait découpé en deux parties, c'est un dossier qui vous explique comment exploiter Stable Diffusion avec vos propres outils, avec les ressources que vous avez quelque part à votre disposition. Bravo, encore un niveau de pédagogie hallucinant, j'ai hâte de tester ça. Mais une question me taraude. Travailler sur Mac, personne n'est parfait. Les outils présentés, Automatic 1111, ControlNet, etc., fonctionnent-ils avec Diffusion B ou seulement NKMD? Alors, je t'ai envoyé, hein, Guillaume, ce petit message par Telegram. Et du coup, tu réagissais, toi, de ton côté. J'ai posté la réponse, mais peut-être que ça mérite de le relayer, là, en intro de cet épisode.
Oui, alors, donc, du coup, NMKD et Diffusion B sont deux logiciels différents. Il y en a un pour PC et un pour Mac. Et ce sont des logiciels qui n'utilisent pas les contrôles nets, en fait. Ils sont pas assez sophistiqués pour ça, je crois, en tout cas pas Diffusion B. Bon, je reconnais, je suis très centré PC, Windows, Linux, hein. Bon, là, c'est parce que j'ai pas de Mac, tout simplement, donc c'est assez logique. Et heureusement, finalement, les autres logiciels que j'ai cités, donc voilà, Automatic 1111, c'est un autre logiciel, Invoke AI aussi, tous ces trucs-là, en fait, ce sont des interfaces, mais ce sont aussi des logiciels, il y a tout le truc derrière pour tout calculer, quoi. Et en réalité... ces trucs-là, ce sont en gros des logiciels Python. Donc ça veut dire que dans le principe, ils sont agnostiques, puisqu'ils s'appuient sur Python et PyTorch, et ça existe partout, Python et PyTorch. Donc en principe, tout tourne sur Mac aussi, sauf que bien sûr, l'important, c'est comment c'est accéléré PyTorch, parce qu'évidemment, ça peut évidemment beaucoup affecter la manière dont vous l'utilisez, si c'est bien accéléré ou pas. Comme toute la pile logicielle aussi, qui doit quand même s'entendre pas trop mal hein, sur la plateforme donnée. Alors, Focus, dont j'ai Focus avec 3 O, là, dont j'ai parlé, il n'est pas officiellement très suivi sur Mac, mais il peut marcher. Il y a un guide non officiel sur le site. Bon, je pourrais me promettre quant à la vitesse de génération. Et pour Automatic 1111, presque tout marche. Il y a un lien d'ailleurs dans les notes hein, sur un tuto. Pour Invoke AI, c'est officiellement supporté. Et pour ComfyUI aussi, il faudra installer par contre les toutes dernières versions de PyTorch, les Nightly. C'est décrit sur la page officielle, hein, comment faire. Bon, pour des raisons matérielles, j'ai pu tester aucune de ces procédures, mais bon, ça devrait marcher, même si c'est un petit peu moins simple que sur PC des fois.
Je vais me retrousser les manches, Guillaume. Je vais me prêter à l'exercice, évidemment, de mon côté. Et puis, je vous tiendrai au courant. Je voudrais relayer aussi, alors, une remarque, un message sur Discord, le serveur Discord qui est accessible, pardon, sur techcafé.fr/Discord. Et alors, tiens-toi bien, Guillaume. Tu vas te rendre compte qu'on est écouté, et pas par n'importe qui. Je m'appelle Olivier et je dévore Tech Café ainsi que les autres podcasts. Alors, de Guillaume Vendée depuis des années. Bon, ça se réduit comme peau de chagrin par les temps qui courent. Mais bref, j'aimais bien Paracul d'ailleurs. Sniff, bon, petit paix à son âme. Dans ma vie professionnelle, je travaille pour un régulateur, l'ARCEP. C'est génial. Écoute, on a une personne qui bosse pour l'ARCEP, qui écoute Tech Café, et il dit Tech Café m'aide beaucoup pour rester au fait des actualités, des tendances de la tech, mais également pour appréhender les machineries sous-jacentes. Transmettez, tiens-toi bien Guillaume, mon admiration et mes remerciements à Guillaume P, qui ne lira probablement pas ce message. Détrompe-toi peut-être Olivier, de toute façon, je rattrape en portant ce message à ses oreilles et aux oreilles des autres auditeurs. Et alors, tiens-toi bien aussi, Guillaume, pour terminer ce tour de piste, je suis sur Blue Sky, voilà, ça je voulais te le dire, parce que j'étais sur Twitter avant, évidemment, quand tu veux pas mourir en étant exposé par une toxicité aberrante et grandissante, tu essayes de te rapatrier un petit peu sur Blue Sky, comme à peu près tout le monde en ce moment, dès qu'on a un code, et j'ai des remarques, hein, en disant en fait, on n'a jamais vu la tête de Guillaume Poggiaspala, et les gens commencent à se demander à quoi tu ressembles, enfin, peut-être qu'ils commencent pas, mais qu'ils continuent à se demander à quoi tu ressembles. Et il y a d'ailleurs Renaud Joly qui a généré une image par intelligence artificielle. Je pense qu'il a dû faire un prompt du style « Fais-moi un portrait de Guillaume Poggiaspala ». Alors bon, on voit bien que l'arrière-plan est évidemment celui de ton bureau ou de ton sous-sol parce qu'il y a beaucoup de composants électroniques, donc ça ne peut être que toi. Le visage, je vous laisse interpréter. Mais enfin, Guillaume, en fait, j'allais dire, existes-tu vraiment ? Par les temps qui courent, on peut se demander, je ne sais pas. Je laisse planer le doute. Sans autre forme de procès, on va parler d'infos et de tech. Juste avant, je voulais mentionner, et en fait, bon, il n'y a pas énormément de choses à en dire, mais peut-être que les gens qui ont des bitcoins et qui voulaient peut-être les vendre parce qu'ils se rendaient compte que c'était récroulé, c'est en train de remonter sérieusement. Alors, je ne me suis pas vraiment actualisé, mais en tout cas, ce matin, le bitcoin avait remonté un cours à 34 000 dollars. ce qui était un peu inédit parce que ça faisait très longtemps, on en avait parlé, hein, que le Bitcoin avait pris très cher. Et en fait, il y a un ETF qui est en train d'être préparé a priori par BlackRock, qui est indexé sur le Bitcoin et qui permettrait grosso modo d'accéder à la même valeur d'investissement qu'on ferait dans le Bitcoin dans un produit financier qui serait peut-être à terme, hein, tout ça est avec des gros guillemets et des gros conditionnels, validé. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire avant que ça ne sorte, mais c'était juste rigolo de relever que là où je pensais, moi, que le cours du Bitcoin aurait peut-être des difficultés à remonter, là, il semble vivre un sursaut. Donc, c'est voilà, c'est un appel, hein, si vous aviez votre portefeuille de Bitcoin qui s'est écroulé, c'est peut-être le moment de les vendre, ou au contraire, peut-être que vous vous dites c'est le bon moment d'en acheter, ou peut-être que vous faites aussi partie, et c'est tout à fait raisonnable, de celles et ceux qui ne veulent pas vous frotter à ce genre de choses. Je vous laisse arbitrer de votre côté. Tu avais suivi, Guillaume, la remontée du oui. Bitcoin très récente?
Oui, bien sûr. Bah, j'ai suivi, mais bon, pour moi, si tu veux, c'est pas très intéressant en réalité.
Ouais.
Parce que bon, technologiquement, il n'y a rien déjà de base, hein, puisque c'est
quelque chose qui est purement du financier, là,
financier, puisqu'en fait, oui. C'est juste que ça fait longtemps qu'ils veulent faire des ETF avec des bitcoins dedans, plus ou moins. Ce qui veut dire, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Ça veut dire que c'est des fonds qui s'échangent en bourse, tout simplement. Donc, mm-hmm. En gros, c'est des fonds qu'on peut échanger comme des actions. Et ils veulent faire des produits avec de la crypto dedans, avec des bitcoins mmh. dedans. Et pour ça, il faut que ce soit certifié par la SEC. Et bon, jusqu'à présent, ça l'était pas. Sauf que de plus en plus, on pense que ça va l'être. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'on va pouvoir spéculer. Et oui, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un regain de spéculation sur le Bitcoin. Donc, ça veut dire que économiquement, il va se passer rien de plus. Hein. C'est juste, on va toujours pas l'utiliser comme une monnaie. Mais comme on va pouvoir le foutre dans des produits financiers, qu'on va pouvoir s'échanger comme des malades, et donc qu'on va pouvoir remettre une couche de spéculation là-dessus, bah évidemment tout le monde est tout excité, donc le cours y monte. Bon, après, pour moi, ça change strictement rien au fait que le Bitcoin ouais. est une relique et que ce truc n'a plus aucune raison d'être, voilà, de mon point de vue.
On
il a un
d'accord.
sursaut, on verra bien ouais. ce qu'il en a après le halving qui arrive en 2024. Hein. Bon, écoutez, surtout, je ne vous donne aucun conseil de... Je donne strictement aucun conseil perso, ça c'est clair et c'est net, mais ouais. pour moi, ça n'a aucun intérêt.
Et technologiquement parlant, effectivement, il n'y a absolument rien de nouveau, tu as raison. On enchaîne pour les vraies news de cette semaine, et malheureusement, elles sont teintées par l'actualité, comme vous le savez à chaque fois, qui peut avoir des gros impacts, notamment sur le traitement de l'information dans le monde de la tech. Et évidemment, on peut parler, Guillaume, de l'attaque du Hamas en Israël.
Et oui, le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, et depuis, bah, sur les réseaux sociaux, bah, je pense qu'on peut appeler ça un désastre, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Un désastre de désinformation, un désastre de modération aussi, et puis bon, un désastre complotiste hein, aussi, parce que... D'ailleurs, à ce propos, il y a un épisode de Complorama, donc le podcast de France Info, que je vous recommande, parce que c'est ce qu'ils appellent ce nouveau moment complotiste, bon, qui est, voilà, je cite, aidé par la surprise, la sidération face à l'ampleur de l'attaque, hein, et donc évidemment, la sidération est propre à paralyser la réflexion. Alors, les voix complotistes sont exprimées très vite, et avec une ampleur inédite, en 48 heures, il y a eu 50 millions de publications, donc c'est Tristan Mendes-France hein, du podcast qui le dit, c'est assez énorme. Et bon, toutes les attaques, voilà, toutes les attaques comme ça suscite forcément énormément d'émotions, c'est normal. Et donc on a des grands classiques qui reviennent strictement tout le temps, comme l'attaque sous faux drapeau. L'attaque sous faux drapeau, c'est vraiment un super classique. À chaque attentat, on y a droit. La victime n'est pas la victime, mais en fait elle a organisé ouais. l'attaque pour légitimer le conflit. Ou alors dans une autre version plus light, elle s'est juste laissée attaquer, mais pour la même raison, hein, pour avoir un motif de rentrer dans l'art à son ennemi, quoi. Bon, on a vu sa thèse le 7, comme on l'a vu pour le 11 septembre, pour l'attaque du Capitole... Pour l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, il y a des membres du Parti Républicain qui soutiennent que c'est le FBI qui est derrière tout ça, et soutiennent toujours ça. Donc voilà, tout le temps, on a toujours ce genre de truc. Bon, l'extrême droite américaine a adopté d'ailleurs même hein, cette histoire, hein, le hashtag BibiNews. BibiNew. Bibi, c'est qui Bibi? C'est pas moi. C'est comme ça que ses partisans appellent Benjamin Netanyahou. Donc ça veut dire que Benjamin savait, qu'Israël savait, et que donc on a laissé faire, on va organiser tout ça, pour faire oublier les soucis de politique intérieure. Donc outre le fait que ça soit particulièrement ignoble, évidemment, mais il y a absolument rien pour étayer ça. Nada. Aucune preuve, mais même rien qui puisse servir de début d'argument, sinon le fantasme d'un Israël invincible, quoi. Alors bien sûr, tous les adeptes du mythe de l'état profond sont assez persuadés que c'est l'œuvre des forces de l'ombre, bien entendu. Donc tous les influenceurs de ces sphères déversent leur délire, trop contents d'avoir un nouvel os à ronger, hein, parce que la crise du Covid, ça fait de moins en moins recettes. Hein. C'est souvent les mêmes. Il y a plein de noms qui reviennent tout le temps, de toute façon Covid, puis Ukraine, maintenant Israël, c'est bon, ça fait toujours du buzz. Et bien sûr, en plus de ces gens et d'autres hein, qui donc surfent un petit peu sur l'infox, tout ça, le sensationnel, pour accumuler des vues, il y a aussi les États qui diffusent massivement pour leur compte. Donc il y a la Russie, le Hamas, évidemment, les partisans des deux côtés, d'ailleurs, hein, évidemment, c'est la guerre, donc contrôler l'info, c'est fondamental. Et on se retrouve plongé dans une espèce de brouillard de guerre informationnelle. Du coup, pour terminer, il y a aussi monsieur ou madame tout le monde, qui sait plus, parce qu'il sait plus, en fait, il est indigné par un poste, il va le diffuser, il va le relayer, sans vérifier, forcément, et il va participer encore à croître ce brouillard, hein, et ce brouillard qui est d'une densité, d'une étendue qui est vraiment inédite. D'après Visibrain, il y aurait 150 millions de posts en une semaine. Alors je pense qu'il parle de X, même si c'est pas précisé. Hein. Donc il y a des influenceurs, il y a aussi des armées de faux comptes. D'après Siabra, il y a un bon quart des 500 000 comptes qu'elle suivait sur toutes les plateformes et qui étaient des faux comptes destinés à créer des manipulations. Alors parfois, ces faux comptes ils se font passer pour des médias, pour des vrais médias, comme le Jérusalem Post, par exemple. Alors le Jérusalem Post, ça n'existe pas, et pourtant il a un compte, et il diffuse des infos comme si c'était un vrai journal. Et d'ailleurs, la question vous brûle là sans doute les lèvres. Hein. Les fausses informations qui ont été publiées contiennent-elles des images génératives? Est-ce qu'on a des IA qui se sont mis dedans? Et bien jusqu'à présent, pas vraiment. Il y a peu de myriages en vue. Hein. On n'a été pas beaucoup abusé par des myriages, en tout cas.
Ou alors on s'en est pas rendu compte. Mais...
Ou alors, pas qu'on sache, bien entendu, mais disons, sur les cas connus, effectivement, oui. On ne sait pas. On reste sur des méthodes traditionnelles qui sont des photos ou des vidéos d'autres conflits qui sont réutilisées avec un texte mensonger, hein, tout simplement. Et donc, avec cette vidéo, par exemple, il y a cette vidéo virale d'enfants en cage là, qui a scandalisé. Elle a scandalisé dans les deux camps. Il y a des Israéliens qui ont reposté la vidéo et des Palestiniens qui ont fait pareil. Et chacun pensait qu'il s'agissait de leurs enfants qui avaient été emprisonnés par l'autre camp. Alors que c'est ni l'un ni l'autre. La vidéo a été créée avant le 7 octobre, donc elle n'a aucun rapport avec l'attaque. Et ça illustre ce que les commentateurs appellent la mésinformation aussi. La mésinformation, c'est-à-dire que tout simplement les gens se trompent. Ils pensent qu'ils relaient des trucs vrais, mais en fait c'est faux et ils participent à la confusion. Et on a quand même un cas d'image générée qu'on a vu sur la couverture de Libération, par exemple, du 19 octobre. Alors, c'est un peu indirect, c'est un homme dans une manif, un Palestinien, qui tient une photo imprimée de bébé qui hurle comme ça. Et en fait, cette image n'est pas réelle. Alors, est-ce que l'intéressé sait que c'est un truc qui a été généré par une IA? Parce qu'il y a d'autres gens qui l'utilisent aussi sur X, hein, qui la diffusent aussi massivement. Est-ce qu'ils le savent, peut-être? Est-ce qu'ils le savent pas? Bon, ben, on sait pas trop, en fait. Hein. Il y a d'autres pancartes aussi où on voit des images générées. Bon, même si les IA n'ont pas vraiment eu besoin de trop bosser pour que ça soit le bordel, elles ont quand même contribué encore un petit peu à la confusion générale par leur seule existence, parce qu'il y a eu des cas où des gens ne croyaient pas à des photos qui étaient pourtant réelles. Donc on est dans un moment assez historique hein, sur ce plan informationnel, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les grandes plateformes, bon, elles sont pas prêtes. Hein. Elles étaient pas prêtes, elles sont toujours pas prêtes, quoi.
Une photo d'un bébé d'ailleurs assez quelque part grossière et bon très malaisante évidemment. Je suis d'ailleurs étonné qu'on puisse générer ce type d'image facilement avec les outils d'IA qui sont communément répandus. Bon après effectivement si vous écoutez l'épisode, le dossier dont on parlait tout à l'heure de Stable Diffusion, vous rendrez compte qu'il est assez vite possible d'arriver à générer des images peut-être un peu plus librement qu'avec les outils qui sont accessibles facilement dans le commerce. Mais effectivement, c'est une période un petit peu compliquée. Et d'ailleurs, la question qui suit ce genre de sujet en général, c'est OK, ça peut être quoi la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que malheureusement, il n'y a pas de solution et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, si ce n'est continuer tout autant qu'on est à partager des contenus d'information qui permettent de faire encore plus comprendre aux gens sans relâche comment fonctionnent ces outils, quel est le rôle de l'information, quel est le rôle de la tech pour l'information, quel est le rôle de la tech au sens large. C'est un peu la raison d'être aussi de Tech Café, on a la naïveté de le penser. Et d'ailleurs, plus directement dans les rapports entre la tech et l'information, Guillaume, il y a évidemment le rôle des réseaux sociaux sur ce conflit.
Oui, bon, et puis ça a été la cata, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot hein, pour les plateformes, ça a été un échec cuisant. Que ce soit sur Meta, sur TikTok, sur Threads, sur YouTube, on a aussi bien eu de l'infox que des images violentes hein, qui n'ont pas dû se trouver là. Dans les trois jours qui suivaient l'attaque, 800 000 contenus avaient été marqués comme perturbants ou simplement retirés. Par Meta, hein, qui assure qu'il travaille avec des gens qui parlent couramment arabe et hébreu pour s'occuper de la situation. YouTube a retiré des dizaines de milliers de vidéos, TikTok 500 000 et 8 000 lives d'ailleurs. Malgré ça, on peut dire que les plateformes ont eu du mal à pas être débordées, hein. Et d'ailleurs, la Commission européenne leur demande de décompte dans le cadre du DSA. Et dans le contexte du conflit aussi, et des de ce conflit, et aussi pour les élections à venir, parce que on sait bien, 2024, ça risque d'être assez sportif. Bon, Thierry Breton a mis en demeure Meta, YouTube et TikTok hein, de s'occuper de leur contenu. L'Europe hausse le ton, attention, non mais. Bon après, franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire concrètement, parce que si les plateformes traînent les pieds, c'est pas clair du tout finalement. D'ailleurs, le temps que prendraient d'éventuelles sanctions, c'est toujours assez long, alors que là, tout va tellement vite. Tu sais, la crise semble en plus pas prête de se résoudre. Bon, il fallait bien que Thierry Breton rappelle les bases, hein, c'est son rôle quand même. Donc, il a fait des lettres directement adressées à Zuckerberg, à Chu, donc bon, TikTok, Sundar Pichai et Elon Musk, hein, bien entendu. Parce que bon, si c'est pas une franche réussite pour les plateformes qui ont essayé de faire quelque chose, on peut pas vraiment parler d'échec pour X, en fait. Parce que sur X, je veux dire, être noyé de bullshit, c'est pas un bug, hein, c'est une feature. Il essaye même plus X. Et puis, il fait plus semblant, quoi. X, il est en train de pourrir sur pied, tout simplement. Si c'était un arbre, il serait déjà tombé. Toutes les plateformes ont été largement contaminées par l'infox, mais X, lui, c'est un cluster, c'est un super spreader. Faut dire que ce moment cristallise, en fait, pour ce réseau-là, toutes les décisions de merde que Musk a pu faire depuis qu'il est propriétaire. Virer les modérateurs, détruire le semblant de crédibilité de la certification, faire caca sur toute la presse, dans son ensemble, décourager d'aller s'informer ailleurs, décrédibiliser toute source externe d'information, hein, monétiser le clickbait, et bien entendu, relayer lui-même de l'infox, hein, parce que c'est quand même lui la personne la plus suivie au monde, c'est évidemment la personne la plus suivie de X, et il n'arrête pas de faire des conneries, de raconter n'importe quoi, c'est une cata.
Ouais, le dernier exemple en date est évidemment sa grande critique vis-à-vis de Wikipédia, qu'il veut surnommer Dickipédia, parce qu'il a toujours beaucoup de créativité sur la manière dont il critique les organismes, les personnes, les entreprises qu'il ne peut pas blairer. Et il n'arrête pas, là, ces derniers temps, de faire une vendetta, évidemment, par rapport à Wikipédia, évidemment, à l'encontre de Jimmy Wales, qui, évidemment, est assez vent debout contre les décisions d'Elon Musk quant à X. Wikipédia aussi, hein, ça peut faire partie des surnoms, des heureux surnoms qui sont désignés par Elon Musk. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que je lisais que cette critique-là, qui vise d'ailleurs, bon, enfin évidemment, il met en avant le fait que Wikipédia demande beaucoup de financement assez régulièrement. Et je me demande si, in fine, sans qu'il s'en rende compte, il n'a pas été un des plus grands promoteur de demande de financement de Wikipédia, et je me demande si in fine ça va pas servir Wikipédia. Bon, on verra dans le temps si ça amène des financements, parce que ça donne quand même beaucoup de visibilité. Lui en tout cas, Guillaume, il a une idée pour assainir X, et en tout cas s'assurer que les utilisateurs sont bien des vrais humains utilisateurs, c'est de les faire payer tout simplement.
Ben oui, on va reparler de X, hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé, c'était reposant un petit peu, mais bon, l'actu droit attrape toujours. Et ouais, la dernière, c'est quoi? Vous vous souvenez peut-être qu'il avait mentionné faire payer tout le monde pour le droit d'utiliser Twitter? Eh ben, il va le faire, hein. Aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, ça y est, il faudra payer 1$ pour pouvoir publier sur Twitter. Juste consulter, ça restera gratuit. Et c'est pas une question d'argent, parce que bon, 1$ par an, c'est peanuts, hein, ça sert vraiment à rien, mais c'est dans le cadre du programme qui s'appelle Notebot. Pas un robot. Bon. Pour payer 1$, vous devez être humain. Bah, c'est ça la logique, hein. Payer, c'est ça qui nous distingue du robot, de la machine, hein, c'est ça qui fait notre humanité, qu'on peut payer. Sans rire, Musk semble vraiment penser que faire payer 1$ par an, ça va anéantir l'armée de bots qui sévit toujours sur le réseau. Pour l'instant, ça s'applique dans deux pays, donc bon, peut-être une expérimentation sans doute, et uniquement pour les nouveaux utilisateurs, ce qui est quand même assez curieux. Bon, ça va peut-être changer, je sais pas. Alors bien sûr, ce dollar symbolique ne vous dispense pas de payer 8$ par mois pour le badge bleu, hein, cette partie bleue, bien entendu.
Pas une réduc, hein.
Voilà bien une preuve que ça marche, d'ailleurs, hein, que faire payer l'utilisation de sa plateforme, ça dissuade les mauvais acteurs. Je veux dire, qui paierait 8$ par mois pour se faire passer pour le New York Times? On se demande. Surtout que Musk vient de lui retirer unilatéralement son badge gold au New York Times, et que donc, il n'y a plus rien qui distingue le vrai New York Times de site imposteur. C'est intéressant. Et Dieu sait qu'on est dans une période de géopolitique qui est vraiment calme et relax, quoi. Alors Elon, il déteste la presse, hein, les journalistes, hein, il veut tellement que les gens passent plus de temps sur X que tout est bon. Même virer les titres sur les aperçus, hein, des articles partagés par les médias, au nom de l'esthétique. Enfin non, virer les titres, c'est juste que ça fait moins de place, ça permet de montrer plus de posts et donc de booster les statistiques, et puis ça attire moins l'attention aussi. Pourquoi aller s'informer ailleurs que sur Twitter, de toute façon, hein, je veux dire, Elon ne le fait quasiment plus, c'est lui qui le dit. Et puis bon, on peut avoir confiance, il y a Twitter Blue, non, c'est X Premium, pardon. Alors, d'après NewsGuard, 74% de la désinformation la plus propagée sur X l'est par des utilisateurs qui ont un badge bleu. ce sont des utilisateurs vérifiés. Donc précisément, sur les 250 posts qui ont reçu le plus d'engagement sur X et qui poussaient les 10 principales fausses informations ou rumeurs hein, relatives à la guerre Israël-Hamas, 176 ont été postés par des comptes vérifiés. Donc collectivement, ces posts ont été vus par plus de 100 millions de fois en une semaine. Alors bien sûr, Elon y crie au scandale, il accuse NewsGuard d'être des escrocs orwelliens. Bon, Linda Iaccarino a affirmé dans sa réponse d'ailleurs à la lettre de Thierry Le Breton, qu'ils avaient enlevé ou contextualisé des milliers de posts. Et c'est vrai, 21 des 25 posts avaient un fact-check, même si seulement 79 des 250 publications au total ont été analysées, avaient une note de contexte à côté. Donc certains comptes particulièrement friands d'infox avaient été virés de Twitter, hein, et sont revenus d'ailleurs que par la grâce d'Elon Musk. Depuis qu'il est là, l'algorithme n'a jamais été aussi biaisé vers les contenus toxiques, hein, c'est David Chavalarias qui le dit, c'est même celui d'ailleurs qui avait fait une étude aussi, qui avait abouti à la conclusion que Twitter était devenu un monstre de climato-dénialisme, que les scientifiques d'ailleurs fuient par ailleurs. Donc, ok, ce gars est en train de détruire le réseau, alors pas David, Elon. Mmh. Chaque truc qu'il propose est calamiteux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dernièrement, t'as vu cette option aussi? Pouvoir limiter les commentaires de ses tweets aux seuls utilisateurs abonnés premium. Parce que X, c'est censé être quoi, du coup?
Oui, effectivement.
Tu vois, X, c'est censé être quoi? Un espace de liberté d'expression? Oui. Ou alors une chambre d'écho pour les membres d'un club? Du club de ceux qui payent, tu vois? Enfin, c'est... D'ailleurs, qui paye? Voilà, ceux qui sont plutôt d'accord avec Musk, en plus. Donc, X risque de devenir une sorte de gros trouve social. Mais payant, en plus. Donc, miam, super.
On se réjouit. GuillaumeVendée.fr sur Blue Sky. Le temps que ce ne soit pas toxique, parce qu'évidemment, hein, on va pas se mentir, à partir du moment où il y aura beaucoup de monde et que les codes d'invitation, et ça a commencé d'ailleurs, commenceront à toucher des gens qui seront toxiques, comme sur Twitter, ça arrivera. Bon, on peut espérer que ce soit pas au point de X aujourd'hui. Spécifiquement, Guillaume, on a aussi du nouveau pour le traitement de l'information par YouTube en vidéo.
Oui, on parle, en fait, assez globalement même, on parle de Musk hein, qui dédaigne la presse, mais en réalité, il y a un divorce général entre les médias sociaux et le journalisme qui est déjà consommé, quoi. Parce que finalement, l'info ne leur apporte que des soucis. Les sujets provoquent des débats houleux, de la polarisation, après on le reproche en plus. Donc Threads et TikTok, ils s'en cachent pas, ils veulent pas d'actu, ou le moins possible. Ils veulent rester dans l'entertainment. Et Adam Osseri a dit explicitement qu'héberger des news ne valait souvent pas le coup. D'autant qu'il y a aussi la question
c'est le buzz d'Instagram.
Oui, hein, c'est le buzz d'Instagram et de Threads aussi, je crois. Hein,
oui, et de Threads, oui, tout à fait.
Et donc voilà, et du coup, voilà, en plus, il y a la question du partage de bénéfices avec la presse, tout ça. Bon. Alors, il y a Campbell Brown qui vient de partir de chez Facebook aussi, et elle encadrait le département info sur le réseau, et Facebook News, alors feu Facebook News, hein, parce que c'est décédé alors que ça avait été introduit en 2019, à l'époque où tout le monde était un petit peu dans l'état d'esprit inverse, en fait, de faire de son réseau une plateforme d'information qui soit raisonnablement fiable. Souvenez-vous, ça existait, hein. Twitter, à l'époque, avait même fait des partenariats avec des organes de presse comme Associated Press ou Reuters pour le fact-checking. Et même avant ça, Zuckerberg avait affirmé que voilà, toute plateforme Internet avait le devoir d'aider à financer et former des partenariats avec les sites d'actualité. Bon, bah, les temps changent, hein, manifestement. Toutes ces tendances se voient sur le trafic que ces sites voient arriver en provenance des autres plateformes. Celui qui vient des réseaux sociaux est en baisse constante de 6,5% cette année, hein, ce qui donne par contraste une importance encore plus grande à Google, qui continue d'envoyer quand même 24 milliards de clics par mois à des sites de presse. Donc c'est toujours très important, c'est même un petit peu en hausse hein, pour certains sites, mais ça compense souvent pas la perte qui est due aux médias sociaux. D'ailleurs aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, il reste plus guère que YouTube pour tenter encore d'assainir un minimum l'info sur sa plateforme. Il va lancer une nouvelle expérience immersive de visionnage, je cite, pour suggérer plus de contenu sur le même sujet quand on regarde une vidéo d'actualité. Donc ces vidéos viendront de sources fiables et vérifiées. En parallèle, il veut investir 1,5 million pour promouvoir la création de vidéos d'actu sur Shorts. Donc YouTube continue de tenter des choses, et c'est une bonne nouvelle, même si Google lui-même amorce un virage qui risque d'énormément nuire aux sites d'actu, même bon, à tout le monde finalement. C'est la recherche IA. Évidemment, on avait un petit peu parlé, cette Generative Search, bah, c'est un peu l'aboutissement du processus qui vise à ne plus jamais quitter Google. On a toute l'info directement sous Google, on pose une question, on a la réponse. On n'a plus à visiter le moindre site, hein, et évidemment ça pose un souci pour les sites en question. Google, comme tout le monde, il a licencié pas mal de monde cette année, hein, dont des salariés qui s'occupaient d'ailleurs des partenaires avec la presse et de Google News. Donc la situation de Google paraît volatile, on va dire. Et tous les pros du secteur songent déjà à un monde post-réseaux sociaux, et même post-Google. Donc le glissement de ces derniers mois a été assez brusque, hein, puisqu'il y a même des poids lourds, comme le Wall Street Journal, ou le Los Angeles Times, par exemple, qui ont bien senti le déclin et qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Hein. Donc, il y a chez The Atlantic, il y a la rédac chef qui est Adrienne Lafrance, qui compte sur ses abonnés plutôt, en fait, sur le site, sur les abonnés du site, mais aussi les abonnés à la newsletter et puis les abonnés au magazine papier. Bon, ben, ils peuvent avoir un magazine papier. Et qui dit finalement que les applications comme Flipboard, par exemple, pourraient devenir un petit peu une sorte de relais, prendre le relais des médias sociaux quelque part, parce que les utilisateurs apprécient le format, la présentation, puis pouvoir réunir comme ça plein de sources qui choisissent eux parmi une grosse sélection, quoi. Et donc pour elle, une époque post-web social, c'est aussi une libération quelque part. Et bon, je peux le comprendre. Les médias sociaux n'ont jamais vraiment réussi à devenir, enfin, ils n'ont pas réussi à devenir des lieux où on peut s'informer de manière saine. Parce que, bah, il y a toujours un mélange des genres néfastes entre cette volonté d'horizontalité totale et puis le travail que demande un vrai journalisme. Faut, voilà, toutes les infos se valent pas. C'est pas vrai. Tu peux pas mettre côte à côte une vidéo d'un gars qui a gambergé toute la nuit sur une rumeur qu'il a vu passer sur Telegram et le travail d'une équipe de journalistes professionnels qui a duré des semaines ou des mois. Bon, voilà. Il faut pas s'informer sur les médias sociaux parce qu'ils sont juste pas faits pour ça. Et là, je pense qu'on est dans le moment idéal pour le constater. Hein.
Ouais, et puis peut-être le mettre en application et aussi de changer ses réflexes, quoi. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour faire une veille. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens. On y reviendra, j'imagine, peut-être à l'avenir. Je vous donnerai quelques conseils, des tips. En attendant, Guillaume, cette guerre de l'information, elle fait rage aussi en Afrique.
Oui, alors l'Europe a lancé récemment un code de conduite pour la désinformation, tu sais, on a parlé des bonnes pratiques pour éviter la désinformation, pour débunker tout ça. Bon. L'application de ce code se fait uniquement sur la base du volontariat et s'applique pas aux États eux-mêmes. Pourquoi ? Ben parce que pratiquement tout le monde en produit en fait de la désinformation dans les faits. Tous les États utilisent la désinformation, les méchants habituels hein, comme la Chine, la Russie, la Corée du Nord, tout ça. Bon. Mais aussi ben, les États-Unis. En 2021, l'université de Stanford a révélé qu'il existait des centaines de comptes sur Facebook et Twitter, qui paraissaient tout à fait normaux, hein, mais qui étaient en fait gérés par le Pentagone. Meta a révélé en 2017 déjà qu'il avait détecté plus de 200 opérations d'influence dans 68 pays, dont beaucoup étaient des campagnes lancées par des mercenaires. En 2020, Facebook s'est aperçu qu'il y avait une opération d'influence française en cours contre les impérialistes russes. Et bon, en fait, ben, oui, effectivement, on l'avait créé en appui de notre intervention militaire dans le Sahel. Et c'est pas l'unique fois. En fait, il y a un long article du Washington Post qui détaille comment Percepto a tenté de contrer l'influence russe au Burkina Faso et de maintenir son président qui s'appelait donc Roch Marc Kaboré au pouvoir. Alors Percepto, vous vous souvenez peut-être, on en a déjà parlé, ce sont des mercenaires de l'information, hein, c'est une boîte qui fait des campagnes d'influence online à base de désinformation avec avec en tout cas des armées de faux comptes, c'est-à-dire des armées d'avatars virtuels, c'est-à-dire des gens qui ont l'air plus vrais que nature, mais qui n'existent pas, qui sont créés de toutes pièces par une boîte hein, qui est en Israël, qui est à Tel Aviv. Et voilà, c'est son métier, c'est son expertise, et n'importe qui peut les payer, homme d'affaires, un État, n'importe qui, peut acheter des campagnes d'influence comme ça sur Internet, c'est un business comme un autre. Donc ils ont été embauchés pour défendre informationnellement, hein, ce s'entend, le président burkinabé alors de l'époque, hein, contre ses opposants politiques et les islamistes. Mais en fait, Percepto s'est vite rendu compte que sur les réseaux sociaux, on pouvait discerner une autre menace qui était beaucoup plus profonde et qui était la Russie, et qui orchestrait déjà de son côté une grosse campagne d'influence pour déstabiliser le régime. Donc il y avait des groupes et des comptes pro-russes très prolifiques un petit peu partout, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, avec des fan clubs de Poutine, et même de feu Evgeny Prigogine, le tout en amplifiant un maximum le sentiment anti-français. Et à l'époque, Percepto n'avait même pas pris la mesure de l'ampleur du mouvement, parce qu'il s'étendait en vrai dans une bonne partie de l'Afrique. Mais pour le Burkina Faso, ils ont ressenti quand même une grosse urgence de contre-attaquer. Et ça n'a pas marché, on le sait, au Burkina, au Mali, les gouvernements étaient renversés par des dirigeants qui sont pro-russes, ouvertement. De manière assez exceptionnelle, le Washington Post du coup donne le détail d'une opération qui s'est passée avec un avatar, donc un avatar particulier créé donc par Percepto. C'est un businessman qui, bon, il aime le foot, il a aménagé à Ouagadougou et il s'intéresse à la politique. Il va se convertir petit à petit à la rhétorique pro-russe et relayer de plus en plus de messages. Il est parfaitement crédible, hein, il interagit avec plein de gens online, mais il n'existe pas. Il est géré par une jeune femme à Tel Aviv, qui a mis des semaines d'ailleurs à lui créer une backstory, un background qui utilise du deepfake d'ailleurs, hein, avec des images génératives pour lui donner plein de photos à divers concerts, divers matchs, etc. Voilà, pour plus vrai que nature. Et l'avatar va même se faire des tas d'amis. Il va intégrer des douzaines de groupes Telegram. On va progressivement lui montrer comment les campagnes online et offline sont organisées. Percepto va découvrir qu'en réalité, l'opération d'influence russe court sur partout, en fait, sur tout le continent africain. L'avatar va se faire tellement d'amis qu'un jour, ben, les Russes vont vouloir le rencontrer. On lui offrira même d'aller à la mère patrie, à la mère Russie, se former. Évidemment, Percepto, bah, il a un petit peu paniqué parce que voilà, le mec n'existe pas. Donc, ils ont dû temporiser et parce que leur opération de récolte d'informations marche trop bien. Donc, ils se sont mis à se dire qu'il fallait recruter un gars pour qui ressemble un petit peu aux photos, hein, pour aller vraiment rencontrer les Russes en personne et pour récolter encore plus d'informations. C'était une occasion qui était trop belle. Malheureusement, on ne saura jamais comment la rencontre qui était prévue dans une boulangerie s'est passée parce que une semaine plus tard, le gouvernement Caboret est renversé. Et c'est pas particulièrement un problème pour Percepto. Bon, ça a pas marché. Dommage, mais pragmatique, bon, il se dit, bah écoute, il y a d'autres clients, hein. Et en ce moment, bah, il se frotte les mains, puisqu'avec la conjoncture actuelle, je te dis, bah, des nouveaux clients, il va en avoir. Il dit même d'ailleurs qu'il en a déjà des gros, dont je cite un gouvernement du Moyen-Orient et deux pays d'Asie. Bon, tout le monde utilise la désinformation, hein. Si quelqu'un l'utilise finalement, bah, on se dit que tout le monde est forcé de l'utiliser, éthique ou pas, hein, l'éthique ça pèse pas lourd finalement dans ce genre de truc. Et évidemment, si c'est découvert, c'est aussi le retour de flamme assuré. Parce que quand le public a eu vent de la campagne française au Sahel, ben, ça n'a fait qu'accentuer le ressentiment. Qu'est-ce que tu veux ?
Et c'est vrai que les polarisations et les conflits dans le monde seront probablement de nature à créer du business, hein, sur la désinformation, ça c'est une certitude. Et en tout cas, une manière de mettre en lumière cette polarisation, une fois de plus, c'est de nous actualiser, Guillaume, sur la guerre plus économique qui a lieu notamment entre les États-Unis et la Chine, avec en point d'orgue, et tu vas nous en parler, cette puce Nvidia qui avait été conçue pour contourner quelque part les limitations d'exploitation à destination de la Chine et qui elle-même se retrouve bloquée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire,
Guillaume ? C'est exactement ça. De manière beaucoup plus transparente quand même, oui, le conflit économique Chine-États-Unis continue dans sa petite escalade, hein. Donc les Américains ont une longueur d'avance en matière d'intelligence artificielle et ils comptent bien la garder. En particulier, ils veulent pas que les Chinois utilisent leur propre puce pour les rattraper. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient interdit les dernières puces accélératrices Nvidia H100 parce que c'était les plus puissantes, donc voilà, ils voulaient se réserver cet atout. Parce qu'ils étaient persuadés que les Chinois pourraient pas fabriquer une puce équivalente, hein, vu leur retard en matière de semi-conducteurs, et les restrictions imposées aux fabricants aussi, pour pas qu'ils en fabriquent pour eux. Bon. Et tout dernièrement, ils se murmurent d'ailleurs même que l'accès au cloud des marques américaines pourrait devenir sévèrement limité pour les Chinois. Donc ça veut dire qu'ils pourraient pas non plus louer, bah, sur Azure, par exemple, des GPU dans le cloud. Donc ils veulent vraiment tout contrôler. Évidemment, ça arrange pas Nvidia, hein, pour qui la Chine est un marché vraiment important, et qui a un énorme potentiel. Donc ils avaient conçu des puces un petit peu moins puissantes, c'est vrai, les H800, pour les exporter quand même et palper un petit peu de yuan bien frais. Crache pas dessus. Et bien même ça, c'est plus toléré. Un an après les premières restrictions sur les H100, ben les H800, et ni même d'ailleurs les A800, qui sont des versions bridées des A100, sont autorisées à la vente. Apparemment, ces puces sont pas suffisamment bridées pour le gouvernement américain, il semblerait. Nvidia, une compagnie américaine, évidemment, n'a pas d'autre choix que de se plier, hein, bon, au vouloir de ce gouvernement. Et du coup, voit s'évaporer le marché chinois de la haute performance, ce qui est quand même le plus lucratif. Donc c'est un coup dur. Bon, alors attention, hein, c'est pas tant que c'est un coup dur. La demande sur le marché, sur tous les marchés occidentaux, est tellement forte que Nvidia, bah, sera juste un tout petit peu moins riche que dans ses rêves les plus obscènes, c'est tout. Par contre, pour la Chine, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est pas sûr que ça ait un impact tellement majeur à moyen terme, finalement. Parce qu'on sait déjà que Huawei utilise des puces 7 nanomètres 100% chinoises dans ses derniers téléphones, qui sont pas si loin que ça dans nos dernières puces. Et bien là, le boss d'une compagnie d'IA chinoise, qui s'appelle HKUST Xunfei, je crois, et donc qui travaille avec Huawei, a révélé qu'ils utilisaient des accélérateurs IA de Huawei, donc qui sont 100% chinois, et qui sont compétitifs avec les A100 de Nvidia. Donc en clair, ils ont seulement une génération de retard. Et des A100, les A100, c'est tout à fait suffisant, en principe, pour entraîner des modèles aussi puissants que GPT-4. Hein. Parce que voilà, les H100 sont à peine sortis quelque part, et bon, tout le monde n'en a pas. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent encore sur des A100, voire sur des V100. Ce qui veut dire que finalement, ils ne sont pas si loin que ça. Donc HKUST, je me demande où ils sont allés chercher ce truc, va d'ailleurs dévoiler son propre modèle de langage à lui, hein, qu'ils vont raffiner petit à petit, Et leur objectif, c'est clairement d'être au niveau d'OpenAI, mi-2024 à peu près. Donc, Huawei est blacklisté un petit peu partout, en Occident, hein, il ne peut plus, quasiment plus rien faire, il ne peut plus sortir de Chine, mais du coup, il en profiterait, ou il profiterait évidemment du vide laissé par les acteurs américains qui ne peuvent plus exporter, et il va devenir un fournisseur majeur, voire même le fournisseur national. Il sera en cours d'ailleurs de nouer, enfin, il sera en train de nouer des liens, des partenariats avec d'autres boîtes sur l'IA, etc. Donc, il est difficile de savoir à quel point tout ça est vrai, bien sûr, tout ça est embelli, on va dire. On ne sait pas non plus à quel point les capacités de production de Huawei et de SMIC, puisque c'est eux qui font vraisemblablement, suivront la demande. Mais bon, même s'il y a des problèmes de demande, Nvidia aussi a des problèmes de fabrication. Donc, on ne sait pas trop.
Est-ce que je n'assume pas du tout la blague que j'ai faite tout à l'heure et qu'elle sera retirée au montage? Je ne sais pas, c'est possible. Au sujet, Guillaume, de la Chine, on a aussi Apple qui se retrouve forcément très investi dans le marché en Chine et malheureusement qui se retrouve un petit peu heurté face à un cas de conscience sur des éléments de contenu sur ses services.
Ben, je sais, alors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais John Stewart, apparemment, en effet, des fois. Alors, John Stewart, perso, je ne connaissais pas. C'est un humoriste américain qui a animé une parodie de journal télévisé pendant des années, donc peut-être une sorte de Gorafi à la télé, j'ai l'impression. Il est aussi acteur et il est aussi assez engagé politiquement et il avait un talk show sur Apple TV+, qui s'appelait Le Problème avec John Stewart. Et ça marchait bien, ils en seraient même à leur troisième saison, sauf que là, Apple a
c'était
tout annulé.
Pas une vidéo de l'œuf, hein. C'était pas...
Non. Bah je...
Non, et... pardon, c'est parce que toutes ces vidéos commencent par Le Problème avec. C'est...
Ah ouais?
Enfin, souvent.
Ah, ouais, pardon. Non, le Problème avec John Stewart. Ah, c'est marrant, mais je savais pas. Et donc, officiellement, selon les sources interviewées par le New York Times, Apple et John auraient eu des désaccords hein, sur des sujets et des invités, en particulier la Chine et l'intelligence artificielle. Et les élections de 2024 serviront d'ailleurs de cerise sur le gâteau. Et là, c'est quand même surprenant, bah, c'est même un peu inquiétant, parce que bah, la Chine, quoi la Chine? C'est parce que Apple est présent en Chine et Apple veut conquérir le max de parts de marché là-bas. Ok, d'accord, mais donc ça veut dire qu'on ne peut plus critiquer la Chine sur Apple TV+, du coup? Bon, on sait bien que la Chine, elle est très tatillonne, hein, on se souvient de la réaction de Tencent, quand certains joueurs ou patrons de la NBA avaient soutenu Hong Kong. Bon, Tencent était responsable de la diffusion en Chine, immédiatement ils ont annulé la diffusion. Il a fallu de plates excuses de tout le monde pour que la diffusion reprenne. D'accord. Oui. Enfin, quand même, c'est quand même super désespérant si ça en est là. Hein. Et bon, si tu veux, pour le deuxième sujet, pour l'IA, c'est encore plus étrange. Je veux dire, l'IA, c'est pas comme si c'était pas un sujet dont tout le monde parlait tout le temps en permanence. Alors pourquoi John envisageait de critiquer les chatbots ou un usage qu'Apple avait, aurait en tête pour ses produits? C'est super bizarre. Alors bon, c'est des spéculations, peut-être ça n'a rien à voir en fait, mais en l'état, on peut quand même s'interroger sur le conflit d'intérêts interne à Apple qui le pousse à annuler un show sur la base de ses seuls sujets. Et ça interroge aussi sur la pertinence de même de ce modèle d'intégration verticale extrême. Enfin, je veux dire, un seul acteur contrôle absolument tout, de la fabrication du matériel à la production des émissions qui passent sur ce même matériel. Il contrôle tout. Et il est soumis lui-même, évidemment, à une multitude de contraintes économiques, qui sont parfois complexes et mondiales. Et du coup, bah oui, à un moment, ça coince. Il y a des intérêts divergents. Mais je veux dire, c'est pas satisfaisant, quoi.
Effectivement, quand tu veux jongler sur plein de tableaux en même temps et tous les contrôler, tôt ou tard, ça te pose des problèmes. Mais c'est pas la première fois, hein, d'ailleurs, qu'on se retrouve à illustrer une telle situation dans Tech Café. J'allais dire, c'est une fois de plus. On va terminer avec le scoop, Guillaume, de cette rubrique qui nous permet de terminer un petit peu, notamment avec des échos un peu politiques, etc. Mais on a le milliardaire pro-Trump, Peter Thiel, alors je le prononce peut-être encore une fois très mal, vous m'aurez pardonné, mais cofondateur de PayPal, qui s'avère avoir été un informateur du FBI, rien de moins que ça. Un film, Guillaume, un véritable film.
Bah écoute, un dernier petit sujet dans le monde brumeux, ténébreux des espions, enfin plus ou moins selon Business Insider, c'est eux qui ont fait l'enquête. Peter Thiel, effectivement, aura été informateur pour le FBI, c'est le milliardaire d'extrême droite qui a cofondé PayPal, tu le dis, qui est au conseil d'administration de Facebook aussi, qui a été un soutien financier de Donald Trump et de plein de républicains. Il a aussi fondé Palantir, qui est globalement prestataire d'État du Pentagone en matière de surveillance, quoi. D'ailleurs, il était aussi à fond dans la crypto, il a des fonds d'investissement, voilà, et puis bon, nouvelle casquette, informateur. C'est Charles Johnson, apparemment, un ami de Thiel, qui leur a présenté Jonathan Buma, qui est un agent du FBI spécialisé dans la corruption politique et les campagnes d'influence étrangères. Donc il serait devenu une ressource humaine confidentielle par la police fédérale. C'est un choc, vraiment, parce que, bah, en gros, toute la frange pro-Trump des républicains déteste le FBI. Et ils ont même propagé des théories complotistes, selon lesquelles il serait à l'origine du coup d'État raté du 6 janvier. Bon, cela dit, le timing est sans doute important parce que il a, Thiel, donc, Peter, il a supporté Trump dès 2016. Et la plupart de ses contributions se sont faites avant que les MAGA ne partent vraiment totalement en vrille. Il a fini par s'éloigner un petit peu de cette mouvance, même s'il reste libertarien, franchement, à droite. Alors pourquoi Thiel donnerait des tuyaux au FBI ? Ben, sur ce qui se dit, ce serait sur ce qui se dit, ce qui se fait. Tout le petit monde de la Silicon Valley, ceux qui arrivent, ceux qui partent, voilà, alors, bon, ben voilà un petit œil là où il faut. Pour le FBI, bon, c'est difficile à dire. Alors. Il n'est pas tout blanc, Peter. Hein. Il est accusé d'évasion fiscale par ProPublica, hein, qui détaille quand même comment il a détourné. En gros, il a détourné une sorte de fonds de retraite pour s'exonérer d'impôts pas moins de 5 milliards de dollars de fortune personnelle. Et puis d'ailleurs, on sait qu'il a rencontré aussi plusieurs fois Jeffrey Epstein, qui est vraiment radioactif. Et puis économiquement, peut-être, c'est pas une mauvaise idée, parce que ça montre sa loyauté patriotique aussi, hein, puisque le gouvernement serait quand même le principal client de Palantir. Donc il a soutenu la création de Backend aussi d'ailleurs, hein, une boîte qui est analogue au NSO Group, qui fait dans la cybersécurité. Et donc voilà, il est dans l'espionnage, la surveillance, finalement ça le connaît. Tu vois, il aime bien ça, et donc quelque part, je sais pas, peut-être un goût personnel. Il a même contribué à l'émergence de Clearview, c'est lui qui le dit. Donc c'est peut-être une marotte, je sais pas. Enfin en tout cas, comment on le sait que Peter Thiel aurait travaillé pour l'FBI ? Eh ben il a été balancé par son pote Johnson, parce qu'il a été vexé que Peter investisse pas dans ses startups à lui. Il comptait sur son argent pour aller voir présenter l'agent du FBI, comme quoi c'était pas un si bon ami, hein.
Ouais, parfois on peut être surpris de ses amis. Merci Guillaume, on passe à une rubrique qui nous permet de nous tourner un petit peu vers les étoiles comme on aime de temps en temps le faire. Mais avant de le faire, vous allez comprendre l'enchaînement des informations. On doit quand même s'intéresser encore un tout petit peu à Elon Musk. Alors non plus pour parler de X et du réseau social, ça c'est fait, mais pour parler de ses autres activités. Et notamment là, en l'occurrence, de Tesla, qui s'avère avoir des résultats un petit peu plus compliqués que précédemment, probablement liés à des investissements, on va en parler. Et puis, des infos sur le Cybertruck.
Oui, le Cybertruck, puisqu'on va parler d'espace et de SpaceX. Un petit mot sur Tesla, puisque bon, on a des annonces et des résultats financiers. On s'y attendait quand même, hein, la production les ventes de Tesla sont en baisse de ce trimestre d'à peu près 7%. Tesla, il a agrandi et amélioré plusieurs usines, donc il y a eu une inévitable baisse de production. Son bénéfice net a baissé à 1,9 milliard contre 3,3 à la même période l'an dernier. Bon, son chiffre d'affaires a un petit peu monté, cela dit. Mais bon, les investissements dans un nouveau superordinateur pour l'intelligence artificielle, hein, et la grosse baisse de prix, quand même, hein, qu'il a consenti sur beaucoup de ses voitures, ça le coûte très cher. Donc Tesla a dû rogner ses marges, hein, c'est des marges qui étaient parmi les plus hautes de toute l'histoire de l'industrie automobile, quand même, hein, et pour tout ça pour accroître son volume. Et Elon a toujours confiance dans le fait que ça valait la peine. Par ailleurs, le Cybertruck, c'est apparemment un cauchemar à produire, en tout cas en grande série, en grande quantité. Donc il a une date de sortie, et désormais c'est le 30 novembre, mais son prix de vente serait plus haut que prévu. Bon, pas vraiment plus d'infos que ça sur ce pick-up au design disons, audacieux. Donc, l'un dans l'autre, Tesla ne va pas mal du tout, hein, faut pas trop s'inquiéter. Il ne semble pas souffrir de la grève des employés du secteur auto d'ailleurs. La demande est là, donc ça roule toujours. Hein.
Un Cybertruck qui nécessitera autre chose qu'un permis B, je crois, enfin je sais plus, en France, enfin c'est un gros permis.
Il faut le permis tank, ce sera normal. Hein.
Et c'est ça, il faut le permis tank renforcé. On parle un petit peu de Starlink, Guillaume, avec la 5G.
Oui, SpaceX, lui, par contre, ça va fort, ça va très fort, ça va encore accélérer. Bon, on le sait, depuis août dernier, Starlink va s'ouvrir à la communication avec les téléphones 5G. Donc Starlink a fait un partenariat avec T-Mobile, mais ça nécessite des satellites différents des Starlink actuels qui sont en l'air. Le principe, le service était prévu pour cette année. Il voulait commencer cette année. Mais bon, comme souvent, il va y avoir un petit peu de retard et c'est reporté à 2024. Et encore seulement pour les SMS. Mais ça aurait pu être pire. Pour l'instant, on a plus de 4200 satellites, hein, qui fonctionnent avec des stations émettrices Starlink, donc les antennes qu'on pose au sol, comme ça. Et bon, ils communiquent pas en 5G, hein, ils peuvent pas capter les téléphones, hein, c'est des trucs avec des bases, tout ça. Bon, pour ça, il faut des Starlink V2, avec des antennes qui sont beaucoup plus sensibles. Il faut quand même capter des émissions de téléphones 5G au sol, hein, depuis l'espace. D'ailleurs, c'est assez dingue, hein, si tu y réfléchis, mais bon. Le truc, c'est que justement, ces satellites sont plus gros, et donc SpaceX comptait les envoyer par batch avec son futur lanceur Starship. Eh bien, un lanceur beaucoup plus lourd, avec beaucoup plus de capacité. Or, la mise au point de Starlink avance, la mise au point de Starship, pardon, elle avance, mais pas aussi vite que prévu non plus. Alors, autant pour des raisons
elle
techniques
freinée,
que des raisons réglementaires,
d'ailleurs. Voilà, ouais.
Comment ?
Non, je disais, elle est freinée surtout, parce qu'elle avance, elle en fait, freinée, mais elle est freinée elle est par freinée. L'environnement réglementaire, t'as raison.
Oui, mais bon, ça fait partie. Alors, je sais que ça fait fulminer Musk.
Qui a fait, oui, parce que lui, Musk, il faut respecter proto. Les lois maintenant.
Oh. C'est ça, il a un deuxième proto prêt à être lancé, et là, il y a des Alors. Problèmes de papier, il faut valider les papiers.
Je comprends. Alors,
ça risque de prendre encore un petit moment, hein, parce qu'il faut qu'à la fois la FAA et la FWS soient d'accord. Donc la FAA, c'est la Federal Aviation Agency, donc voilà, Fédération d'aéronautique américaine. Et la FWS, c'est la Fish and Wildlife Service, donc c'est l'agence de protection de la faune et de la flore, qui a moyennement apprécié que l'explosion du dernier Starship arrose de débris brûlants toute la zone sur des kilomètres, alors que c'est quand même une zone protégée, tu vois. Donc le prochain proto restera vraisemblablement au sol jusqu'en 2024, voire mi-2024.
Ça fait long.
Ça fait long, ça désespère Musk, ça désespère la NASA aussi. Parce Allez. Qu'elle comptait utiliser un Starship pour débarquer sur la Lune fin 2025.
Et bon, oui, étant donné que.
Et, bah, t'imagines, donc, étant donné que le prochain proto, il risque bien d'exploser mi-2024, c'est quand même peu probable qu'une mission lunaire soit prête un an plus tard, quoi. Donc la NASA est en train de se faire une raison. Bon, elle admet qu'Artemis 3, peut-être, ça pourrait évoluer vers une mission différente, tout ça, tout ça. Mais bon, revenons à Starlink. Enfin, non, Starlink, hein, comme Starship, il n'est pas complètement tout de suite prêt. Ben, SpaceX s'est remis au boulot pour créer une sorte de version intermédiaire des satellites, donc qui serait moins grosse que les V2, d'origine, quoi, mais qui serait quand même compatible 5G en partie, et voilà, qui serait un petit peu plus gros, voilà, ce sera une sorte d'intermédiaire entre les V1 et les V2. Et évidemment, il faudra que tout ça rentre tranquille dans des fusées Falcon 9. Ça veut dire aussi qu'on va bourrer des fusées Falcon 9 de nouveaux satellites Starlink. Et que donc, elles vont devoir assurer l'intérim, finalement, les Falcon 9 de Starship. En plus de leur mission qui était déjà prévue pour 2024. Donc désormais, l'objectif de SpaceX, c'est de faire 12 lancements par mois en 2024. Ça fait un lancement tous les 2 jours et demi. Ça fera un record de 144 lancements, contre 88 ces 12 derniers mois. La progression est vertigineuse de SpaceX, hein, parce qu'ils ont lancé 31 fusées en 2021, 61 fusées en 2022, 88 en 2023 et 144, ce sera prévisionnellement pour 2024. Donc ça suppose évidemment d'utiliser toujours plus les lanceurs, hein, parce qu'il faut les réutiliser encore et encore. Pour le moment, le nombre maximum de vols est de 20 par booster. Il est capable, mais ils sont capables d'augmenter ça encore. Je pense qu'ils vont passer à au moins 25, parce que ça fera autant baisser évidemment le prix du vol. Le turnover sur les pâtières de SpaceX, c'est incroyable. C'est devenu tellement rapide et fréquent que c'est devenu industriel, quoi. Les ingénieurs, actuellement, ils mettent 4 jours pour remettre en ordre le pâtir après le décollage. C'est déjà dingue, hein. Ils vont passer à 2 jours et demi. Et pour ça, SpaceX doit encore beaucoup travailler quand même et accroître l'automatisation, tout optimiser. Même la communication interne, tout, même la logistique. Hein. SpaceX, d'ailleurs, demande depuis quelque temps plus de tests et de certifications sur ses composants aux prestataires, et donc à ceux qui fournissent les composants, les matériaux, pour qu'ils puissent les utiliser tout de suite, pour qu'ils aient pas à le faire eux-mêmes, tu vois. Donc voilà, la demande pour le Falcon 9, par ailleurs, reste forte, hein. Mais bon, c'est clairement la motivation interne des Starlink qui pousse SpaceX à aller vraiment toujours plus loin, quoi, dans l'optimisation des Falcon. Alors pour le moment, les services voie et internet mobiles par satellite seront pas dispo en 2024, hein, ils le seront peut-être en 2025. Il est possible que, pour ces fonctions plus avancées, il faille d'ailleurs des full Starlink V2, quoi. Et donc, probablement plutôt des grosses fusées Starship. Voilà, donc 2025 ou 2026.
Et tu voulais nous parler un peu du rôle sur l'IoT, éventuellement ?
Oui, parce qu'on parle de la 5G spatiale, qui est à la mode depuis à peu près 2 ans, hein, puisque Apple a lancé son service d'urgence, voilà, il y a ce temps-là, je crois. Et puis, Huawei a aussi amélioré son service satellite sur les derniers téléphones, sur les Mate 60 Pro. Et parce que désormais, il faut savoir, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais seulement en Chine, on peut faire des appels audio téléphone à téléphone en passant par l'espace. Ça marche. Huawei utilise des satellites Tiantong 1, donc c'est une petite constellation qui a commencé à être lancée en 2016, et ils ont une puce émetteur spéciale. Donc c'est pas de la 5G vraiment, mais c'est vraiment un appel satellite, quoi. Et d'ailleurs, ça se paye 30 cents la minute. Bon, pour ça, c'est vrai qu'en général, il faut des satellites qui sont très sensibles, comme le Blue Walker. Blue Walker qui réussit le double exploit de permettre la communication donc avec un Samsung S22 standard au sol, ce qui est incroyable, hein, et aussi de devenir le pire cauchemar de tous les astronomes, hein, puisque c'est devenu l'un des objets les plus brillants du ciel. Il a une magnitude de 0,4, ce qui veut dire qu'elle est à peine 3 fois moins lumineuse que Sirius. Sirius qui est l'étoile la plus lumineuse du ciel quand même, hein. Pas la planète, hein, l'étoile. Bref, une photo astronomique, c'est du photobombing, on voit que ça, on voit que le trait qui a laissé sur le cliché, le truc. Donc, tout le monde alerte sur le problème, manifestement, tout le monde s'en fout. AST, hein, le responsable de Blue Walker, estime d'ailleurs qu'il pourrait lancer son premier satellite commercial vraiment pour la 5G dès l'année prochaine. Et donc, petit à petit, on voit arriver plein d'acteurs. C'est incroyable. On voit arriver Link Global, Blue Origin aussi avec Kuiper. Tout ça prend plus de temps que prévu initialement, surtout pour un déploiement massif hein, quand même. Mais c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. D'autant que ça coûte quand même énormément d'argent. Donc reste à voir à quel point tout le monde pourra rentabiliser ça. Le truc, c'est qu'il y a aussi un autre débouché à la communication satellite, avec d'autres acteurs. Bon. Et ce débouché, c'est les objets connectés. Parce que, bon, en gros, effectivement, hein, si un téléphone 5G peut se connecter via l'espace, pourquoi pas un capteur ? Ou une caméra, ou un robot tondeuse, je sais pas. Et même au-delà, la perspective de connecter un truc en totale zone blanche, ben, ça peut être intéressant, voire ça peut être même vital, hein. Quitte à devoir mettre une puce un petit peu plus custom d'ailleurs, mais bon voilà. Le truc c'est qu'il y a une forme de démocratisation de l'accès à l'espace qui se fait, avec les lanceurs qui sont, donc les lanceurs privés qui sont réutilisables, et ça ouvre énormément de perspectives. Encore plus avec une sorte de rétro-compatibilité 5G, mais pas seulement. Il y a une boîte qui s'appelle Satellio, qui veut lancer une constellation spécifiquement pour les objets connectés, on en avait peut-être parlé en supplément d'ailleurs, il me semble, mais c'est pas le seul. Il y a aussi Lacuna Space, il y a aussi OQ Technology, oui, OQ, désolé. Ces nouveaux entrants veulent lancer des flottes de CubeSat, en fait, des satellites qui sont assez petits, des satellites vraiment très compacts, qui sont pas trop chers, et qui peuvent utiliser des standards radio différents. D'ailleurs, les satellites utilisent un protocole bande étroite du 3GPP, donc quelque chose qui est standard, puisque c'est un sous-standard du LTE, alors que Lacuna Space utilise un truc différent qui s'appelle LoRaWAN, un protocole LoRa, qui est dédié uniquement à l'Internet des objets, et qui d'ailleurs se retrouve déjà dans divers trucs, comme des tags pour les troupeaux de vaches ou des ruches, ce genre de trucs. Et donc, il y a déjà un bazar de standards radio, mais ça va pas s'arranger. Et donc les anciens en plus se lancent aussi, parce qu'il y avait déjà des acteurs hein, sur le marché de la com satellite, il y avait Globalstar, qui est le partenaire d'Apple, et cette année, Globalstar, bah, il fait une moitié de son chiffre d'affaires par Apple, c'est la bande passante qui attribue à Apple pour son service SOS, mais il y a un tiers de son chiffre, c'est la bande passante pour des objets connectés. Il faut penser à des capteurs qui envoient des informations, même sans aucune couverture réseau, en plein milieu de rien, quoi. Et donc le vénérable Globalstar est toujours là, Iridium est intéressé aussi, Orbcom aussi, donc voilà, il y a tout un marché, et il y a plein de gens s'y intéressent, et évidemment, tous ceux qui ont déjà un pied, voire même un orteil hein, dans l'espace, sont persuadés que c'est un énorme marché. Donc, chers amis astronomes, je compatis, vraiment.
Ouais, on se met à votre place, ça doit pas être évident. On en profite pendant qu'on est dans l'espace. Il y a un autre sujet qui est toujours intéressant à couvrir, c'est l'évolution vers le tourisme spatial. Et il y a un cadre légal qui est assez favorable, du coup, pour cette expérimentation de nouveaux segments commerciaux, j'allais dire. C'est une interdiction de la réglementation et forcément, les industriels qui sont concernés seraient bien favorables à ce qu'on repousse un petit peu l'arrivée d'une réglementation à ce sujet, Guillaume.
Oui, le tourisme spatial se développe petit à petit, doucement, mais même plus largement, les gens envoyés dans l'espace par des boîtes privées, ça devient un peu la routine, ou presque. Et ce prochain 1er janvier, expire le moratoire sur la régulation fédérale des vols spatiaux commerciaux, qui dure depuis 20 ans. Donc en 2004, les États-Unis ont décidé de ne pas introduire de nouvelles règles supplémentaires pendant 20 ans sur la sécurité des passagers des vols spatiaux commerciaux. Bon, parce que, à l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on considérait que c'était encore qu'au balbutiement, et donc on n'allait pas commencer à mettre des règles, voilà, comme pour les avions, étant donné que rien n'existait, quoi, ou presque. 20 ans plus tard, il y a quand même 3 compagnies qui sont capables d'emmener des gens dans l'espace maintenant. Hein. Bon, il y a SpaceX, évidemment, il y a Blue Origin, et il y a Virgin Galactic aussi.
Ça fait du monde, ouais.
Ça commence à faire du monde, et c'est d'ailleurs, Virgin Galactic et Blue Origin font même dans le tourisme spatial. Néanmoins, aucune ne considère ses capacités comme suffisamment matures pour justifier nos nouvelles règles. À la différence de la FAA, d'ailleurs, la Fédération américaine de l'aviation, donc, qui s'est dite tout à fait prête en septembre dernier à reprendre le boulot et à bosser avec les entreprises à un nouvel encadrement du secteur. Dans une unanimité vraiment très très rare, les 3 boîtes se sont levées comme une seule fusée, fusée décollant sur l'horizon rougeoyant comme ça, pour dire qu'ils n'étaient pas prêts. On n'est pas prêts. Le secteur, il n'est pas prêt, personne n'est prêt, on est encore en train d'apprendre, laissez-nous tranquilles. C'est vrai, déjà qu'il faut faire toute notre tas de paperasse avant de lancer un truc et bien certifier qu'on ne va pas écraser le moindre pécari en cas de malheureux accident. Ça va, hein, on va pas en plus rajouter des trucs sur les ceintures au décollage et les sacs à vomi, hein, faut pas déconner. Il y a des milliardaires, il y a des milliards qui se perdent là, je veux dire, voilà, bon, c'est avec toute cette bureaucratie. Je t'en foutrais du pécari, moi. Bon, je résume, mais en substance, c'est un petit peu le sentiment partagé par les trois compétiteurs sur le sujet. Alors, je blague parce que ça me fait marrer que systématiquement, la seule manière de mettre toutes les boîtes d'accord, ce soit de menacer d'encadrer le secteur. Mais bon, honnêtement, j'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet parce que les lanceurs commerciaux privés, c'est une affaire ancienne. C'est vrai que les vols, par contre, les vols privés habités sont beaucoup plus rares. Et pour l'instant, je crois qu'il y a eu que 13 lancements. Donc, c'est beaucoup et peu à la fois. Donc, est-ce que c'est, voilà, c'est pas la première fois non plus, mais bon, voilà, l'aérospatiale, c'est quand même pas ma spécialité, donc est-ce qu'on peut dire que le secteur est assez mature pour se faire réguler? Je sais pas. J'ai l'impression que pas encore tout à fait, mais bon, voilà. Donc, je sais pas. D'ailleurs, les politiques américains ont pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'ils savent vraiment non plus, pour l'instant.
On demandera son avis à Aurélien Barreau là-dessus, il aura sans doute un sujet. On va parler, pardon Guillaume, pour terminer, de cette grande promesse digne des films hollywoodiens, qui est celle de remplacer l'environnement dans lequel on va chercher différentes ressources sur Terre par des astéroïdes. Finalement, Guillaume, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à arrêter de miner cette pauvre Terre qui a déjà bien assez souffert pour qu'on aille tout simplement pomper les ressources dans les astéroïdes?
Oui, on reparle encore du minage d'astéroïdes.
Oh pardon, excuse-moi, j'ai sauté un thème, excuse-moi. Oui, ouais, pardon, avec Blue Origin qui veut lancer sa station. Allons-y.
Donc oui, on reparle du minage d'astéroïdes, et oui, on en reparle encore. Alors pour l'instant, c'est toujours pas plus concret que dans Starfield, hein, très honnêtement. Mais c'est vrai que c'est une vieille histoire déjà, hein, parce qu'il y en a eu déjà par le passé une grosse série de désillusions et d'échecs sur le sujet. Si on fait le bilan, il y a 4 ou 5 ans déjà, hein. Il y avait Planetary Resources, il y avait Deep Space Industries, alors, je sais pas si vous vous souvenez, non, moi non plus je me souviens pas, tous ont levé des millions quand même à l'époque pour développer du minage spatial avant de tomber dans l'oubli. Et dans les années 2010, on avait déjà l'idée que ça pouvait être possible, et il y avait des promoteurs connus comme James Cameron, Eric Schmidt et bien sûr Jeff Bezos. Mais bon, tout le monde aime l'idée d'aller chercher du minerai autrement qu'en ravageant notre propre planète, hein, bien sûr, et donc évidemment les astéroïdes sont dans l'actu, en plus avec Osiris Rex là, qui est revenu avec quelques graviers et poussières de Bennu, hein. D'ailleurs, les premières analyses révèlent que toute cette crasse ramenée de l'espace est pleine de carbone et d'autres éléments hydratés, donc ça veut dire qu'apparemment il y a une source d'eau potentielle là-dedans. Tout ça est compatible d'ailleurs avec un rôle significatif joué par les astéroïdes dans l'émergence de la vie sur Terre. Mais bon, tout ça, on s'en fout, parce que la vie, rien à battre, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est du métal. On veut du métal, on veut du nickel, du cobalt, à la tonne qui a qu'à se baisser pour en ramasser. Et justement, y a certains astéroïdes où c'est un peu ça. Des astéroïdes qui sont très métal. Ils peuvent avoir une densité de nickel qui est 1000 fois supérieure à ce qu'on trouve dans la croûte terrestre. Donc les astéroïdes peuvent avoir de grosses concentrations en cobalt et en fer et en platine. Tout un tas de trucs dont les prix vont, selon toute vraisemblance, hein, s'envoler dans les années à venir. Ouais. La demande pour le cobalt pourrait sextupler d'ici à 2050. Bon, alors, encore une fois, les économistes se penchent sur le sujet, du coup, quand on dit les prix qui vont sextupler, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? De même, il y a l'école d'études minières du Colorado qui étudie le potentiel et les challenges de faire du minage sur les astéroïdes. Et puis bon, le prix des lanceurs ne cesse de baisser, c'est vrai. Ils ont quand même été divisés par 20 en moins de 20 ans. Alors bon, le prix de l'accès à l'espace baisse, les prix des métaux montent, est-ce que ça va se rejoindre? Bon, d'autant que dans l'espace, pas de souci de destruction de l'environnement, on s'en fout, pas de problème éthique, on s'en fout. Pas de pollution, parce qu'on s'en fout, et pas de problème géopolitique non plus, hein, parce que l'espace est à personne, enfin, tout ça jusqu'à ce qu'il y ait un véritable marché, et que donc on passe dans un scénario la The Expanse, bien entendu, ça arrivera peut-être, mais bon, c'est vrai que les astéroïdes sont assez petits, et donc ils sont plus faciles à démanteler, il faut voir ça aussi, hein. Et donc on peut accéder à un volume de minage plus important par rapport au volume total. D'ailleurs, en termes de volume de minage accessible, d'astéroïdes comme Vesta a un volume de minage qui doit être deux fois celui de Mars tout entière. Donc c'est vraiment fat, quoi. Il y a un gros potentiel. Bon. Et c'est vrai que si on est du genre optimiste, ben on pourra avoir un renouveau de la conquête spatiale, hein, qui serait motivé par la recherche de ressources pour la Terre, mais qui pourrait avoir des retombées positives partout, dans tous les secteurs, et qui engendrerait aussi une expansion du secteur spatial lui-même, qui finirait par capter une partie de ressources collectées, qui pourrait l'utiliser directement, une boucle rétroaction positive, hein, qui mettrait l'espace à notre portée, où même le sky n'est plus une limite, et voilà. Bon, après ça, il y a le concret, bien entendu, parce que... faut quand même le faire, hein, faut quand même y aller, et déjà on sait pas où aller. Parce que où on va? Quel astéroïde choisir? Comment on extrait le minerai? Va falloir pas mal plus qu'avec Osiris Rex, hein, du minerai quand même. Et pour ça, il y a quand même un acteur, il s'appelle Astroforge, qui propose de commencer effectivement par le début, c'est-à-dire de localiser l'astéroïde. C'est une boîte de Los Angeles qui se focalise sur un astéroïde riche en platine, bah tant qu'à faire. ils ont déjà envoyé un petit satellite pour tester leur appareillage d'extraction de raffinage. Alors, c'est un petit CubeSat, hein, c'est un tout petit truc pour essayer de voir là, comment ça se passe en gravité zéro. La prochaine étape, c'est l'année prochaine, ils vont déployer un petit véhicule pour aller observer de plus près leur cible. Donc ils vont aller zioter un astéroïde et qu'ils ne dévoilent pas. Ils ne disent pas ce que c'est, c'est comme un filon, hein, donc voilà, tu gardes pour toi. Et voilà, le système de propulsion, ça va être déjà au point, et donc l'objectif, c'est de ramener du minerai raffiné sur Terre avant la fin de la décennie. Va savoir, Astroforge va peut-être réussir là où, bah, jusqu'à présent, tous les autres ont échoué, ou pas.
Et puis, pendant qu'on parle, Guillaume, d'aller collecter des ressources dans l'espace, il y a aussi Blue Origin qui veut nous aider, peut-être indirectement, en faisant un espèce de nouveau concept, celui de la station-service de l'espace, c'est ça ?
Ben oui, parce que mine de rien, quand on parle d'espace aujourd'hui, comment on le fait, ben c'est quand même bien différent de ce que c'était en 2004, hein, c'est vrai, hein, c'est, si on arrive à se souvenir, c'est fou. À l'époque, un truc comme Starlink, ou une boîte privée qui lance une fusée tous les deux jours, c'était impensable. Que la NASA soit en contrat avec une boîte privée pour mettre des gens sur la Lune aussi d'ailleurs, hein, même si ça va peut-être foirer finalement. Eh bien, nous ne nous arrêtons pas là, puisque Blue Origin, les projets qui vont encore au-delà de Kuiper et de New Glenn, c'est carrément de faire une sorte de station de service, c'est ça, hein, ça s'appellerait Blue Ring, donc l'anneau bleu. Le but, c'est de fournir de la logistique spatiale, donc une station à laquelle tu t'amarras pour faire le plein de carburant et profiter du Wi-Fi. Et c'est vraiment ça, Blue Ring pourra servir de support en orbite terrestre, ou bien en orbite cislunaire, et fournir des services de carburant, de logistique, donc je suppose des consommables, hein, comme de l'eau, de l'oxygène, des trucs comme ça, et aussi un cloud qui pourrait, enfin un cloud de données, quoi, qui pourrait servir de relais de données avec la Terre. Donc c'est vraiment une mini-station spatiale, comme dans les jeux vidéo. Bon, il manque la possibilité de revendre son minerai extrait sur des astéroïdes voisins, hein, parce que bon, peut-être ça arrivera, hein, qu'on fait là, nous avons. Blue Ring pourrait avoir une charge utile de 3 tonnes, quand même. Et elle aura, si on en croit l'illustration qu'on a vue, hein, c'est de très 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 gros panneaux solaires, et des réacteurs aussi pour la manœuvrer un petit peu, et des très grosses antennes. Bon, à terme, elle pourrait aussi fort bien être utilisée au-delà de l'orbite lunaire, comme dernier relève en des voyages plus longs, et elle pourrait même déployer elle-même des satellites qui font de plus de 500 kg. Et tout ça, ça sera disponible dès 2025, pas fou. Blue Ring peut être lancé par des fusées de toute origine en plus. D'origine bleue, hein, de Blue Origin, s'il y en a, mais bon, sinon, des Falcon 9 à défaut, n'importe lesquels. Donc tout ça, c'est le projet, et pour l'instant, ce n'est qu'un projet, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un communiqué de presse avec une jolie image en 3D. Alors bien sûr que Blue Origin a probablement déjà fait plein d'études, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient construit un anneau bleu pour l'instant. Et le carnet de commandes, pourtant, serait déjà plein, d'après Lars Hoffman, qui est vice-président des ventes. C'est même pas la première station à être prévue finalement, hein, une première station privée à être prévue par Blue Origin, puisqu'on on l'avait peut-être mentionné, mais il y avait aussi Orbital Reef, qui est une station qui est, elle, plutôt digne de l'ISS, hein, mais en privé, qui devrait être lancée par New Glenn. Alors New Glenn, c'est l'équivalent de Starship, en gros, mais chez Blue Origin, c'est le lanceur lourd, qui est lui aussi en retard, hein, donc vous inquiétez pas, tout est en retard.
C'est bien, au moins tout le monde est dans le même paquet. C'est comme si tout le monde prenait un train avec la SNCF. On enchaîne, Guillaume, avec les jeux vidéo aussi pour conclure évidemment cet épisode, avec encore une prouesse d'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui joue à Pokémon, là, sous nos yeux, des milliers de parties en même temps, c'est captivant.
Ouais, c'est vraiment génial. Alors, c'est une vidéo YouTube qui a vraiment beaucoup de succès et c'est mérité, je pense. C'est une IA qui apprend à jouer à Pokémon et elle le fait par renforcement. C'est-à-dire qu'elle le fait toute seule, en fait. On lui dit pas comment jouer, on lui dit même pas comment faire, on lui donne même pas de but vraiment précis, style va là ou fais ceci. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on la récompense quand elle fait quelque chose qui est positif, quand elle se comporte bien. Quand elle a atteint un objectif, comme capturer un Pokémon, par exemple, on lui donne tant de points. Si elle bat un boss, ben, on lui donne plus de points. Et en fait, on va la récompenser pour faire des choses qui la font avancer dans le jeu. Et donc, même juste pour explorer la carte, finalement, et découvrir un nouvel écran, ben, on la récompense. On lui donne un petit point, par exemple. Au fur et à mesure, ben, elle apprend, petit à petit, toute seule, comment jouer convenablement en fonction de ces récompenses-là. Alors, le truc, c'est que faut pas non plus exagérer. Voilà. Le problème, c'est qu'elle peut pas jouer vraiment comme nous, hein, parce que déjà, elle peut pas lire les textes. Elle peut pas lire les textes à l'écran. Hein, elle a des comment dire... Elle voit que les obstacles, les choses comme ça, mais elle peut pas lire les textes dans les bulles, quoi. Du coup, si elle peut pas lire les textes et qu'il y a une quête où il faut, par exemple, faire un truc particulier ou retourner à un endroit précis, bon, ben, c'est mort. Non, mais ce qu'elle peut faire, c'est, quelque part, jouer avec le principe général. C'est-à-dire, voilà, se déplacer, tu vois, gérer ses Pokémon, les mettre à niveau, leur faire monter de niveau, les faire évoluer, etc. Ça peut marcher. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que la vidéo est vraiment super bien faite. C'est très bien produit. C'est très, très, très visuel. Et surtout, c'est une vidéo qui apprend vraiment, en plus, comment fonctionne l'apprentissage par renforcement. comment ça marche et à quel point c'est difficile. Ça montre bien que c'est vraiment pas facile à faire et que ça peut couiller très vite, de manière assez inattendue. Alors je vais pas déflorer toute la vidéo parce qu'elle est vraiment cool, voilà, mais par exemple, quand la première fois où voilà, y a un agent comme ça, enfin l'IA qui sort de la maison, pour la première fois, elle reste bloquée à un endroit particulier de la carte. C'est pas vraiment qu'elle bouge pas, c'est qu'elle juste elle bouge, elle regarde un endroit, puis elle recule, et puis ensuite, comme si elle tournait comme ça sur elle-même, un endroit, et c'est un endroit particulier, c'est un endroit où il se passe des choses. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a des NPC, des personnages non joueurs hein, qui bougent comme ça, voilà, des petits personnages qui bougent, il y a de l'eau aussi en mouvement comme ça, et elle reste là comme si elle était distraite par les trucs et qu'elle regarde un petit peu autour d'elle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement logique avec la fonction de renforcement qu'on lui avait donnée. Parce que on récompense la nouveauté. On récompense quand il y avait un certain nombre de pixels différents, quand elle voit des pixels différents. Or, là, le fait qu'il y ait des NPC qui bougent et que l'eau bouge, ben, ça fait que, justement, il y a toujours de la nouveauté dans cette zone, finalement. De la petite nouveauté, mais il y a toujours de la nouveauté. Et donc, du coup, ben, elle se contente de rester là. Et donc, il faut changer la fonction de récompense pour la forcer à partir de là. Parce qu'il ne faut pas la récompenser, il faut la récompenser quand elle change, quand il y a suffisamment de changements, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment didactique et ça montre bien à quel point, ben oui, dans l'idée, c'est peut-être assez simple, mais en fait, en pratique, c'est pas évident à mettre en route. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'apprentissage par renforcement, il y a aussi un autre papier avec... c'est d'autres résultats, c'est pas vraiment jeu vidéo, mais bon, c'est aussi l'apprentissage par renforcement, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Il y a un autre papier qui est assez intéressant, qui s'intéresse justement à ça, qui est le design de la meilleure fonction de récompense. Parce que quand tu fais de l'apprentissage par renforcement, la fonction de récompense, en fait, c'est ça qui va modeler l'IA complètement. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver la bonne, trouver celle qui est la plus efficace. Et donc il y a des chercheurs qui ont mis au point un système qui s'appelle Eureka, dont le principe est assez étonnant, puisqu'on veut faire apprendre un mouvement à une main robot. Donc c'est un mouvement complexe, comme faire tourner un stylo. T'imagines, ouais, bah, je sais pas si tu... Moi je sais même pas faire tourner des stylos dans mes doigts, mais voilà, c'est faire un robot qui fait tourner des stylos. Quoi. Pour ça, on veut le laisser faire tout seul. Donc comme l'IA dans Pokémon, pareil, on fait un apprentissage par renforcement. Mais il faut bien justement lui donner des repères de comment il se débrouille. C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, lui donner, bah oui, c'est comme ça qu'on fait ou c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut designer cette fameuse fonction de récompense. Et en fait, il y en a plein des fonctions de récompense différentes possibles. Et pour trouver la meilleure... Ben, les chercheurs utilisent GPT-4. GPT-4 qui va produire le code. Ensuite, on utilise un environnement virtuel dans lequel il y a une physique qui est donc l'environnement NVIDIA Isaac. Donc, c'est comme une sorte de moteur de jeu vidéo dans lequel il y a un moteur physique qui simule donc le monde réel, mais on peut le faire à très très haute vitesse. C'est-à-dire que dans cet espace virtuel, on peut faire une simulation à 1000 fois la vitesse réelle. Et donc, assez rapidement, ça permet d'évaluer l'efficacité de l'apprentissage. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on a deux niveaux d'IA. On a une IA de bas niveau qui est le réseau de neurones chargé de contrôler les doigts et qui, lui, apprend par renforcement avec une fonction de récompense. Et cette fonction de récompense, elle est évaluée et raffinée et révisée par un autre niveau d'intelligence artificielle qui est celui de GPT-4. Donc on a une double boucle d'apprentissage quoi, qui marche plutôt bien, enfin en tout cas pour faire tourner les stylos. Et voilà, enfin bon, elle marche aussi pour d'autres tâches motrices simples, je vous rassure. Mais donc c'est encore une piste assez intéressante pour la robotique.
C'est assez captivant. Tout ça est très visuel. Hein. Vous pouvez aller voir dans les liens, dans les notes de l'épisode. Vous verrez, tout ça est très visuel. Évidemment, mention spéciale à la vidéo d'apprentissage d'IA pour Pokémon, ce qui est toujours rigolo. On termine, Guillaume. Alors, je l'avais pas du tout vu passer. Moi, où je commence à rattraper un peu mon retard parce que j'ai terminé The Last of Us. Alors, forcément, je commence la série The Last of Us. C'est ce que je voulais faire. Mais il y a une autre série chez Amazon qui devrait arriver, qui là aussi exploite une franchise de jeux vidéo. Alors, je vais être très transparent avec toi, Guillaume. Je n'ai jamais joué à cette série de jeux. Jamais.
Ah bah écoute, ben moi en fait, je vais être très transparent, j'ai pas joué malgré mon grand âge, j'ai jamais joué au premier, j'ai jamais joué à 102D, j'ai joué à Fallout 3, à Fallout 4 et à Fallout New Vegas. Ce qui est déjà... et j'ai plutôt bien apprécié, pour être tout à fait honnête.
Fallout, hein, pour être sûr de bien connaître, c'est Fallout, en gros c'est, un monde c'est une, post-nucléaire.
C'est un jeu post-apo, hein, tout simplement. En fait, c'est une sorte d'Uchronie dans lequel les humains ont donc une technologie très avancée, mais avec une esthétique très années 50. Et donc, c'était pendant la guerre froide, quoi. Donc, cette esthétique-là, sauf que le problème, c'est qu'à la différence de nous, il y a eu une guerre atomique et que du coup, ben voilà, la Terre est ravagée. Et nous, en général, le joueur, on est, on a un survivant qui sort d'un refuge, les Volts, là, les gros refuges anti-atomiques. Et donc on sort, on débarque dans ce monde post-apocalyptique, dans lequel évidemment c'est la loi de la jungle, c'est atroce, bon voilà. Et il faut faire son trou là-dedans, puis bon, il y a des diverses histoires. Et donc, c'est une série de jeux qui est donc assez ancienne maintenant, qui a commencé dans les années 90, qui est très populaire, qui est souvent voilà, très mature, très violente. Enfin, en tout cas, les premiers d'ailleurs étaient même encore plus que les dernières versions de Bethesda. Mais bon, en tous les cas, c'est un jeu qui, pour moi, est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est assez culte, c'est quelque chose qui est très connu et très apprécié. Mais j'ai pas conscience, tu vois, je sais pas si c'est suffisamment culte pour, tu vois, pour vraiment motiver beaucoup de gens à le voir. Alors peut-être que oui, en fait, j'en sais rien. Et il semblerait que oui, c'est pour ça que je suis un petit peu étonné. Parce que Fallout va sortir en série live, hein, sur Prime Video, et ça sera même dès le 12 avril 2024. Donc l'année prochaine, il y aura une série Fallout. Alors bon, écoute, ça pourrait être intéressant de regarder ça. Donc c'est encore une série post-apo, et écoute, alors c'est très différent par contre de Last of Us, hein. Mais les thématiques sont très très matures aussi, et c'est une esthétique très très spéciale, éventuellement à voir, quoi, à regarder.
Eh ben écoute, alors moi je me sens pas très très sensible ni au jeu ni du coup à la franchise, mais après tout je suis ouvert à tout, ça pourrait être intéressant de se pencher là-dessus. Je termine aussi pour dire que du côté de chez PlayStation, même si tout cela n'est pas avéré, il semblerait qu'il y ait vraiment une vague d'écrémage qui se prépare. Vraiment, c'est pas une info, hein, c'est plutôt une rumeur qui commence à se concrétiser, avec a priori le départ de personnes qui sont chargées du développement là-bas, avec beaucoup d'années d'expérience. A priori, le bateau PlayStation est peut-être en train de tanguer en interne, ou en tout cas, il était peut-être temps de rationaliser pour des besoins purement financiers. J'imagine que le contexte n'est pas étranger à tout ça. Merci Guillaume Pogjaspala pour la préparation de cet épisode, et puis évidemment pour toute l'articulation des infos qu'on a partagées dans cet épisode. Il est grand temps, Guillaume Pogjaspala, que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet.
Bon, on va me retrouver à réécouter un petit peu de David Bowie. Je sais pas pourquoi j'ai dans la tête tout ça en ce moment, mais ça me rajeunit pas d'ailleurs.
Ah bon ? Bah qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'essaye de faire un lien que j'aurais pas compris avec le reste, mais il y a zéro lien avec ce qu'on a dit ici. C'est quoi ?
Bah le titre de la balade.
Oh mais oui, oh mais bien sûr, non, tu sais, je suis tellement pas bon, j'avais pas relevé. Oh, non, non, je connais pas suffisamment. Bon, bah vous comprendrez quand vous irez regarder les notes de l'épisode. Pas comme moi, vulgaire profane que je suis, je m'auto-flagellerai 2-3 minutes pendant le montage. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, tiens, sur Blue Sky, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. En attendant, merci infiniment de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Et puis évidemment, si jamais vous considérez que Tech Café a un intérêt pour vous et vous apporte une info et un moment de divertissement qui vous plaît, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. En attendant, rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.